Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Christophe André.
Bonjour.
Avec la psychologue Rebecca Chandland, vous publiez un nouvel essai chez Odile Jacob qui sonne comme un traité de savoir-vivre, de savoir bien vivre dans cette société de plus en plus fragmentée, individualisée, solitaire. Ces liens qui font vivre, éloge de l'interdépendance. Vous n'avez jamais connu de solitaire heureux et heureux de sa solitude ?
Si, parfois on peut être heureux de sa solitude lorsqu'on l'a choisie et lorsque c'est une solitude transitoire. Mais vous savez, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il y a un auteur américain du 19e, Ambrose Bierce, qui avait fait un petit dictionnaire et pour définir le mot seul, il disait « en mauvaise compagnie ». Quand on est seul, on est en mauvaise compagnie. En réalité, ce n'est pas tant la solitude choisie qu'il faut critiquer, c'est l'égoïsme, c'est la solitude de ses intérêts, de la poursuite de ses idéaux. Et notre société est malade d'individualisme, elle est malade d'égoïsme, elle est malade de narcissisme, alors qu'elle ne vit que par l'interdépendance. L'interdépendance, c'est une évidence. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Ce que nous mangeons, ce que nous portons, ce que nous lisons, ce que nous entendons, tout ce que nous vivons, nous le devons pour tout ou partie à d'autres personnes. Et ça, il ne faut jamais l'oublier.
Mais si on l'a oublié, c'est aussi qu'on a beaucoup valorisé l'affirmation de soi-même, le développement personnel, l'indépendance, le culte du moi, en quelque sorte. Vous pensez que le plus important, l'essentiel dans la vie, c'est le goût des autres ?
Oui, c'est le lien avec les autres. Alors, vous savez, cette valorisation dont vous parlez, elle a été nécessaire à un moment donné. C'est vrai que pendant très longtemps, dans les sociétés occidentales, mais c'était le cas partout, l'individu était écrabouillé par ses groupes d'appartenance. On devait se soumettre à sa famille, à son employeur, à son pays, et ça n'était pas forcément une bonne chose non plus. Donc, tout ce travail qui a été fait par la psychologie pour pousser les gens à s'affirmer, mais pas que par la psychologie, évidemment, il était nécessaire.
Il y a eu un mouvement d'émancipation, des religions, des traditions, des coutumes.
Et c'était très bien. Par contre, on a le sentiment qu'on a poussé le curseur un petit peu trop loin. On a basculé aujourd'hui vers une époque où il y a trop de narcissisme, trop d'égoïsme, trop d'individualisme, que cela concerne les individus, moi-je, ou les nations. Regardez la vision de l'Amérique que promeut quelqu'un comme Donald Trump. C'est l'Amérique d'abord, et puis le reste, on s'en fout. Ça, c'est dramatique par tout un tas d'aspects. Et au fond, c'est un peu ça, cet éloge de l'interdépendance. Et d'ailleurs, on a mis sur la couverture de notre livre aussi un proverbe que j'aime beaucoup.
Ensemble.
Alors, voilà.
Ensemble, on va plus loin.
Oui, mais ça commence par tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. C'est-à-dire, parfois, les autres nous encombrent. Parfois, les autres nous dérangent, ils nous pèsent. Mais il ne faut jamais oublier que finalement, se débarrasser des autres, parce qu'on a l'impression qu'à certains moments, on ira plus vite, c'est une grave erreur, parce que dès que les difficultés arriveront, on aura besoin d'eux.
Alors, quel type de lien, Christophe André ? Dans interdépendance, il y a dépendance, qui n'est en soi, qui n'est pas une valeur très positive, pas seulement pour les personnes âgées ou les grabataires. Dépendre de quelqu'un, on se dit que c'est être dans un sentiment d'infériorité.
Oui,
c'est une position d'infériorité.
Dépendre de quelqu'un, c'est reconnaître qu'il y a des choses que je ne peux pas faire seul, qu'il y a des idéaux, des objectifs que je ne peux pas atteindre seul. Et alors ? Est-ce qu'on peut avoir l'orgueil, l'illusion de pouvoir tout atteindre et tout faire tout seul ? C'est une absurdité. Donc, l'idée de l'interdépendance, c'est de reconnaître nos dépendances croisées. La définition de l'interdépendance, c'est des liens de dépendance mutuelle bénéfiques qui vont m'apporter des choses. Je suis dépendant de mes amis parce que quand je vais avoir besoin de déménager, ils vont me prêter un coup de main. Mais ils sont dépendants de moi parce que je leur rendrai d'autres services. Et c'est au fond habiter joyeusement ces liens-là au lieu de les habiter avec angoisse. Vous savez, notre société, comme vous le disiez, considère que la dépendance, c'est presque un gros mot et que c'est l'idéal, c'est l'interdépendance absolue. C'est un mensonge, ça n'existe pas, l'indépendance absolue, pardon. Et deux, pourquoi serais-je inquiet, insécurisé ? Parce que je ne suis pas capable de faire quelque chose tout seul. Il y a des choses dans lesquelles j'excelle et il y a des choses dans lesquelles je suis moins bon. Ces choses-là, j'ai besoin des autres pour les réaliser et je peux m'en réjouir. C'est chouette de savoir que les autres sont là pour m'aider.
Christophe André, on marque une courte pause. À tout de suite.
Europe 1. De 9h à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen.
Avec le psychologue Christophe André, auteur des liens qui font vivre, des liens qui peuvent être toxiques. On peut subir de mauvaises influences. Christophe André, comment distinguer les bons liens des mauvais liens ?
Eh bien, nous croiserons régulièrement et nous croisons régulièrement les deux dans notre vie. Ce n'est pas toujours facile de les distinguer. On ne les distingue pas toujours au début, mais on sait qu'il y a un bon vaccin, un bon moyen de protection, c'est de multiplier ces liens. Vous savez, ce qu'on appelle le lien social, c'est quelque chose qu'on a très largement étudié en psychologie et on sait que ce lien social peut nous apporter tout un tas de choses, mais aussi doit se construire à tout un tas de niveaux. Là où je suis en danger par rapport au lien social, c'est quand je fais de la monoculture. C'est comme quelqu'un qui mangerait toujours la même sorte d'aliments ou une agriculture qui ne cultiverait qu'une sorte de plante. Eh bien, le jour où un parasite arrive et s'installe dans sa plante, il est cuit.
Donc, c'est les relations quasi exclusives ou quasi exclusives.
Voilà. Et donc, on sait par exemple qu'il y a trois cercles dans nos liens sociaux. Il y a les relations très intimes, les gens qu'on voit quasi quotidiennement ou avec qui on a des relations d'interdépendance très fortes. Il y a un second cercle qui est un cercle de gens soit qu'on voit quotidiennement, mais avec qui les liens sont moins forts, des collègues de travail, des voisins, etc. Qu'on croise comme ça, des commerçants, bon, avec qui les relations ont l'air plus superficielles. Puis un troisième cercle, au fond, les inconnus à qui on bavarde dans la rue, etc. Nous avons besoin des trois.
Au passage, vous faites remarquer que les liens qui laissent un souvenir négatif laissent plus de traces dans nos mémoires que ceux qui laissent un souvenir positif. Pourquoi ?
Ah, ça, c'est un des grands constats de la psychologie positive. C'est que, malheureusement, notre cerveau est équipé pour la survie. C'est-à-dire que nous sommes plus profondément marqués par les choses qui nous menacent que par les choses qui nous réjouissent, parce que c'est l'héritage du monde animal. Vous savez, si vous êtes un petit animal fragile dans la jungle, vous avez intérêt à ne pas rater le prédateur, ou à ne pas rater le danger parce que vous n'aurez pas une deuxième occasion. Si vous ne faites pas attention au prédateur, ou si vous ne vous souvenez pas du danger dans lequel vous avez été, eh bien, l'histoire ne vous repassera pas deux fois le plat, vous allez disparaître. Par contre, vous pouvez rater l'occasion de vous réjouir, de manger, de boire, d'avoir un rapport sexuel. Si vous êtes une petite bestiole, il y aura toujours d'autres occasions qui arriveront. Et notre cerveau marche comme ça. Notre cerveau, il nous apprend à surévaluer le risque, à nous focaliser sur ce qui pourrait nous mettre en danger et à faire passer un peu au second plan ceux qui, au fond, représentent des sources de réjouissance ou de bonheur. C'est comme ça, c'est la structuration biologique. Donc ça veut dire que il faut continuer de faire attention, mais il faut équilibrer cette chose-là. Sinon, nous vivons comme des anxieux. La vie d'un anxieux, c'est quoi ? C'est je passe mon existence à sauter de problème en problème. Et je ne me donne jamais le temps de me réjouir, de savourer, de me poser.
Quid de la dépendance au sein d'un couple, la codépendance ? Sans lui ou sans elle, je ne suis rien. Ouais. C'est toxique ou pas ?
Ça dépend de la manière dont on l'habite. Alors la codépendance, la pure codépendance toxique, c'est je suis dépendant de ce salaud ou je suis dépendant de cette sale personne et j'en souffre, mais je ne peux pas faire autrement. Ouais. C'est-à-dire on est dépendant l'un de l'autre, mais on le regrette, on en souffre et il y a des sentiments hostiles. L'interdépendance, c'est se dire je dépends follement de gens que j'aime. Je dépends follement de mon conjoint, je dépends follement de mes enfants. S'ils m'étaient retirés, ma vie s'effondrerait. Et pourtant, c'est le plus beau cadeau que la vie ait pu me faire. Je suis dans une interdépendance positive parce que j'ai conscience de mes fragilités. Je vois bien qui peut les compenser et je m'en réjouis.
Il y a une part importante de votre livre qui porte sur la petite enfance. La dépendance positive, Christophe André, ça s'apprend dès le plus jeune âge par le comportement des parents.
Oui, on a beaucoup insisté sur ça parce qu'il y a des illusions qui polluent encore aujourd'hui notre manière d'éduquer les enfants. Finalement, si mon idéal c'est que mes enfants puissent être un jour indépendants dans certaines circonstances, on a vu qu'on n'était jamais indépendant à 100%, mais il y a des moments où il faut prendre son indépendance, l'affirmer, s'engager. Bon, eh bien, je vais devoir d'abord sécuriser mon enfant par ce qu'on appelle la psychologie de l'attachement. Je ne dois pas avoir peur de le prendre souvent dans les bras quand il pleure. Je ne dois pas avoir peur de le rassurer, de le consoler. Je ne dois pas avoir l'obsession trop tôt de le rendre autonome et indépendant de moi. Et c'est vrai aussi pour l'éducation. Trop longtemps, les enseignants ont essayé de ne pas mélanger l'éducatif et l'affectif. Ils avaient l'impression que si les élèves s'attachaient trop à eux, s'ils étaient trop affectueux avec leurs élèves...
Donc il fallait garder de la distance. Hein.
Voilà, ça ne leur rendait pas service, il fallait être distant. On s'aperçoit que c'est une erreur. Et même sur un plan médical, les grands prématurés, les petits bébés qui naissent avec un poids de naissance trop faible, c'est la fusion avec les parents, c'est le pot à pot qui va leur augmenter leur chance de survie de 40% par rapport à la couveuse. Donc vous voyez, à certains moments, on a besoin d'une dépendance absolue si on veut avoir ensuite confiance dans nos capacités d'autonomie, d'indépendance, une fois de plus, dans certaines circonstances.
En résumé, Christophe André, dans votre conclusion, vous dites qu'il faut de la bienveillance, de l'altruisme, ne pas hésiter à demander de l'aide, à proposer de l'aide.
Oui, c'est souvent on a l'impression que si on demande de l'aide, c'est qu'on est inférieur, c'est qu'on est incompétent. Et du coup, on se met dans des situations invraisemblables. Moi, je me souviens de mon papa qui était... quand on se baladait dans des quartiers, dans des villes ou des pays qu'il ne connaissait pas, il ne voulait jamais demander son chemin dans la rue.
Oui, ça arrive, ça arrive.
Et il avait l'impression qu'il s'infériorisait, qu'il fallait qu'on trouve tout seul, alors que c'est tellement plus simple de faire ça. Donc, n'ayons pas peur de demander de l'aide, vérifions quand même qu'on ne passe pas notre temps à nous accrocher aux autres, et puis surtout, n'ayons pas peur d'en donner. Et la vie en société sera beaucoup plus belle et nous serons beaucoup plus heureux.
Merci beaucoup. Christophe André avec Rebecca Shankland, ces liens qui nous font vivre, éloge de l'interdépendance chez Odile Jacob. Merci à vous.
Merci beaucoup.